Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite d'avoir un bon sabbat, un sabbat édifiant. La fête des tabernacles est toujours très riche en enseignements. Nous apprenons, entre autres, de comment les choses se passeront au cours du millénium. Nous avons, pendant la fête, un aperçu, un avant-goût, un tableau et une vision. Mais il est certain qu'il est nécessaire d'avoir une vision. Nous sommes certainement familiers avec Proverbe 29 et le verset 18. Proverbe 29, le verset 18. Vous n'avez pas besoin de vous y rapporter. Proverbe 21, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le rabbinat dit ceci. Faute de révélation prophétique, le peuple s'abandonne au désordre. Et en anglais, tout au moins dans l'ancienne version King James, c'est intéressant parce qu'il parle que quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Le peuple périt. Nous avons, pendant la fête, nous avons eu pendant la fête une vision du millénium, de la paix et de la prospérité. Mais pour que nous puissions y être, en tant qu'être spirituel, il nous faut pratiquer la voie de Dieu, la justice de Dieu. Nous serons à ce moment-là des rois et des sacrificateurs qui auront à cœur le fait d'enseigner la justice de Dieu. Nous attendons bien sûr le millénium, nous avons la vision du millénium, mais regardons Hébreux chapitre 7, le verset 2. Il y a quelque chose ici qui est très intéressant, où il est question de la justice dans Hébreux chapitre 7 et le verset 2. Je lis à partir du verset 1 pour situer un petit peu le contexte. Il s'agit de Melchizedek, Hébreux chapitre 7 et le verset 1. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord, et c'est intéressant que c'est marqué d'abord, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et je trouve l'ordre très intéressant parce que la Bible dit, précise, qui est d'abord roi de justice, ensuite roi de Salem, roi de paix. Quand il y a la justice, il y a bien plus de paix. Et les deux choses sont liées. Ce qui ressort de ce passage, c'est une description du roi, roi de justice. Regardons Ésaïe chapitre, si vous voulez bien, Ésaïe chapitre 11 et le verset 1. Ésaïe chapitre 11 et le verset 1. Il est question ici toujours du Christ, Melchizedek, qui est devenu le Christ. Ésaïe chapitre 11 et le verset 1. Prophétie à propos de l'avenir, à propos du millénium. Ésaïe chapitre 11 et le verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Verset 2. Voilà une description de l'état d'esprit que le Christ aura, et a déjà bien sûr, mais aura lorsqu'il va revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il y a donc une dimension spirituelle qui existera dans le monde à venir, dans le millénium, Il y aura bien sûr la beauté de millénium, mais ce qui va prédominer dans le millénium, c'est la justice de Dieu. Ce sont ces lois qui vont prédominer. Ça va faire toute la différence. Nous lisons dans le verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel. Comment le Christ va régner en tant que roi des rois, justement. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dire, parce qu'il sera juste. Verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Ça va faire toute la différence. Il y aura une vraie justice. Une justice qui sera exercée, bien sûr, par le Christ, parfaitement. Une justice où on ne tiendra pas compte de la position sociale de quelqu'un. Pas davantage si il est riche ou s'il est pauvre. Ce sera la vraie justice de Dieu. Verset 5. Ce que la Bible précise, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le Christ va opérer constamment avec la parfaite justice de Dieu. Et cela m'amène au sujet de ce sermon dans Matthieu chapitre 6 et le verset 33. Matthieu chapitre 6 et le verset 33. Nous lisons ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu nous donnera les choses physiques, ce dont nous avons besoin pour vivre, quand nous donnons la priorité aux choses spirituelles. Il est intéressant de remarquer, là encore, je ne m'y rapporte pas, mais dans Psaume 119, 97, nous lisons, Psaume 119, verset 97, « Combien j'aime ta loi !» Quelques versets plus loin, nous lisons ceci dans le verset 106 du même chapitre, du même psaume, verset 106, il parle de la loi, ou les lois de ta justice. La justice de Dieu a à voir avec les lois de Dieu, avec ses lois. Et nous devrions être concernés par des choses spirituelles, par beaucoup de choses spirituelles, et nous devrions être concernés davantage par la justice de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, 33, le sujet n'est pas si oui ou non Dieu est juste avec nous, en ce qui nous concerne. Si Dieu est juste avec nous dans nos vies personnelles. Parce que la réalité, c'est que Dieu est toujours juste. Peut-être nous ne voyons pas la justice de Dieu. Peut-être nous ne comprenons pas la justice de Dieu quand il y a certaines choses qui se passent. Et peut-être encore nous n'acceptons pas la justice de Dieu, que c'est peut-être certaines choses à nos yeux sont peut-être injustes. Et que, à ce moment-là, nous n'avons pas la même vision, la même perception, la même réalité que Dieu. Parce que Dieu est toujours juste. C'est son caractère parfait. Donc, ça, ce n'est pas le sujet. Il est question, dans ce verset, de chercher la justice de Dieu. Le Martin, la version Martin, dit ceci. « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En anglais, c'est encore plus précis, parce que en anglais, la version en anglais, parle de « His righteousness ». Donc, il s'agit bel et bien de la justice de Dieu lui-même. Nous voyons dans le monde des injustices. Le monde souffre beaucoup de ces injustices. Il y a des cris pour la justice, des manifestations pour la justice, des manifestations pour qu'il y ait plus de justice. Et Dieu dit dans Ésaïe 59, verset 8, Ésaïe 59, verset 8, « Et il n'y a point de justice dans leur voie. » D'une façon générale pour les êtres humains, leur façon de vivre généralement, il n'y a point de justice dans leur voie. Et en ce qui concerne la justice des hommes, parfois, ça arrive qu'ils n'ont pas tous les faits, qu'ils n'ont pas toute la connaissance, mais la justice des hommes est par la force des choses faillible, susceptible par moments de commettre des erreurs. Tandis que Dieu est parfaitement juste et Dieu sait tout. La dimension manquante que nous avons vu tout à l'heure, cette dimension spirituelle qui existera dans le monde à venir, nous, il va falloir attendre cette époque. Mais c'est intéressant de voir ce que nous venons de voir dans Ésaïe 59. C'est intéressant de voir ce que Dieu voit. Comment Dieu voit le monde. Les injustices qui existent de nos jours détruisent des vies. Brise des vies, gâche des vies, brise parfois des familles tout entières, sans parler de ce qui se passe entre nations. Il y a des gens de nos jours qui sont des gens innocents, qui sont en prison. Il y avait un professeur, ou il y a un professeur de droit à Michigan, aux États-Unis, Samuel Gross. Il a composé une équipe d'experts dans le droit et dans les statistiques. Et il a estimé que probablement au moins 4% des personnes qui étaient dans le couloir de la mort, au moins 4% de ces gens étaient et sont probablement innocents. Et Samuel Gross n'avait pas de doute que certaines personnes innocentes avaient été exécutées. En France, bien sûr, nous sommes familiers avec l'affaire Dreyfus, avec tout ce que ceci englobait. Il y a beaucoup de paraboles du royaume. Nous en voyons beaucoup dans Matthieu chapitre 13, où il est question du royaume des cieux. Et dans ce chapitre, le royaume des cieux est comparé, c'est le Christ lui-même qui fait la comparaison, est comparé à un trésor caché, où la personne va vendre, et je cite, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Parce que justement, le trésor est caché dans le champ. Le mot que le Christ emploie, c'est semblable à un trésor. Une autre comparaison qui est faite, c'est un marchand qui cherche de belles perles et il trouve une perle de grand prix. Et de nouveau, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, est d'une valeur inestimable. Inestimable. Et dans Matthieu chapitre 22, Matthieu 22, le royaume des cieux, et je cite, est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Paul, justement, parle du retour du Christ, de son royaume, que le Christ va revenir au son de la trompette pour établir son royaume ici-bas. Il en parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, où il mentionne le fait que nous serons changés, il parle de notre avenir, et à la fin de ce passage où il est question du retour du Christ et de notre changement, il donne un genre de conclusion, un encouragement. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mais le royaume de Dieu, c'est aussi un tout, parce que il nous incombe de chercher sa justice, d'être pris par le fait de pratiquer la justice en pratiquant les commandements de Dieu. Et en cherchant justement la justice de Dieu, nous allons arriver dans le royaume, nous allons être dans le royaume, cette perle de grand prix. Parce que les normes du royaume de Dieu, c'est aussi la justice de Dieu. Ces deux choses vont de pair. On ne peut pas les séparer, parce qu'il y aura la justice de Dieu dans le royaume, et à nous de vivre d'après la justice de Dieu d'ores et déjà maintenant. C'est intéressant, quand nous regardons l'Ancien Testament, nous voyons déjà que la Bible met l'accent, Dieu met l'accent sur la justice déjà pour les enfants d'Israël. Dans Exode chapitre 23, Exode chapitre 23, là encore, je m'y rapporte pas, mais vous pouvez vérifier ceci à la maison. Juste avant Exode 23, verset 1, en anglais, New King James, il y a un sous-titre. Sous-titre en anglais, Justice for All, c'est-à-dire la justice pour tout le monde. Et ce sous-titre, donc, est le sous-titre pour les versets 1 à 9. Ensuite, après, à partir du verset 10, il y a un autre sous-titre. Mais c'est intéressant ce sous-titre, c'est pas bien sûr dans le texte original, mais c'est une analyse de ces quelques versets, parce que Dieu veut, Dieu a donné des lois pour que tout le monde puisse avoir la justice, les riches comme les pauvres. La justice pour l'étranger. Lévitique, chapitre 19, verset 15. Lévitique, chapitre 19, verset 15. Nous lisons ceci. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Mais tu ne favoriseras point la personne du grand, la justice, la vraie justice pour tout le monde. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice de Dieu. Donc la justice est soulignée ici déjà dans l'Ancien Testament. Moïse a dit dans Deutéronome chapitre 1 qu'il fallait juger selon la justice, car c'est Dieu qui rendent la justice. Et puis, un autre passage dans Deutéronome chapitre 16, Deutéronome chapitre 16 et le verset 18, nous lisons ceci, Deutéronome chapitre 16 et le verset 18, « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. » Cette phrase revient. « Et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. C'est très humain de faire égard à l'apparence des personnes. Donc Dieu met Israël en garde quant à ce fait. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent. Là aussi, c'est quelque chose qui est très humain et à notre époque aussi ça existe. Car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Beaucoup d'accent sur le fait de pratiquer la justice. Nous voyons ici l'importance de pratiquer la justice de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5 et le verset 6, le Christ parle de notre motivation quand il s'agit de la justice, de vouloir profondément, désirer profondément la justice. Dans Matthieu chapitre 5 et le verset 6. Matthieu chapitre 5 et le verset 6. C'est l'écriture aussi avec laquelle nous sommes familiers. Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. D'avoir faim et soif de la justice de Dieu. Je pense que nous avons faim et soif du royaume, où il n'y aura plus de lutte, un monde de toute beauté, de paix. Et dans ce monde de paix et de sérénité, les gens vont justement pratiquer la justice. Et nous ne vivrons pas, les êtres humains ne vivront pas dans la peur. Dans le royaume, nous allons enseigner la justice, nous allons enseigner la voie de Dieu, nous allons enseigner ses voies justes. Nous allons enseigner aux gens de garder ses commandements. Nous serons à ce moment-là esprit, nous serons des rois et des sacrificateurs, et nous allons inculquer aux gens le même soif, le même désir pour la justice de Dieu. Quand nous jeûnons, à la fin, peut-être de notre jeûne, nous avons vraiment soif et vraiment faim. Et nous sommes contents, le premier verre, le premier bouchée de nourriture que nous prenons à ce moment-là après le jeûne, c'est très, quelque chose de très agréable, parce que justement, nous avons vraiment faim et vraiment soif, peut-être sur un plan physique. Notre appétit est aiguisé. Et il faudrait, façon de parler, il faudrait arriver à avoir la même soif, la même faim sur un plan spirituel. Il y a une différence par rapport au plan physique, c'est que quand nous avons mangé, quand nous avons bu après un jeûne, nous sommes rassasiés. La différence, c'est que cette faim, cette soif de la justice de Dieu, il faut que ça reste constant. Il faut que cette faim, cette soif soit toujours là dans nos vies. Que notre désir de vivre selon la justice de Dieu, c'est ce qui nous motive, que nous avons la vision du royaume, mais que nous avons cette motivation profonde de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Jean chapitre 6, il est question du Christ, il est question du pain de la vie. Jean chapitre 6, et le verset 53. Jean, chapitre 6, et le verset 53, nous lisons ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Il faut prendre du pain de la vie. Et c'est seulement quand Jésus-Christ vit sa vie en nous que nous pouvons développer le vrai caractère de Dieu et vivre une vie de la justice de Dieu. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, verset 56, et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? » Verset 64. « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Il y avait des disciples, donc, qui ne croyaient pas, qui n'avaient pas ou n'avaient plus cette faim et cette soif de la justice de Dieu, des choses de Dieu. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Ils n'étaient pas réceptifs à ce qu'ils avaient entendu à ce moment-là. Verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre, toujours premier à pendre, toujours impétueux, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Verset 69. « Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ. » Le Saint de Dieu. Pierre a compris la portée de ce qu'il entendait. Pierre aimait profondément le Christ. Et donc, il s'agit d'avoir faim et soif de ce qui vient de Dieu, de la justice de Dieu, même si ça va contre nos propres désirs, nos propres souhaits. Plus tard, les disciples avait toujours ce même zèle, toujours la même soif, et nous trouvons dans Actes chapitre 5, verset 20, je m'y rapporte pas, quand un ange qui les a libérés de prison, Actes chapitre 5, verset 20, a dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Et il continuait à enseigner, malgré l'opposition qui allait continuer. Pierre a gardé cette faim, cette soif. Il a continué à parler de cette vie dans ses épîtres, de la justice de Dieu. Si nous avons faim et soif de la justice de Dieu, nous allons chercher cette justice. Nous allons être motivés dans notre fort intérieur. C'est intéressant quand nous regardons le mot « chercher ». C'est le même mot utilisé par Hérode quand il voulait tuer le Christ. Il s'agit donc d'avoir la volonté, la motivation, parce que Hérode voulait vraiment, vraiment tuer le Christ. Il s'agit donc de la volonté, de la motivation, premièrement. Deuxièmement, des moyens. Se donner les moyens pour y arriver. C'est ce que Hérode a fait. Et troisièmement, le temps. Le temps, de prendre le temps, de consacrer le temps nécessaire pour y arriver. La volonté ou la motivation, les moyens et le temps. Et bien sûr, nous pouvons mettre ceci en parallèle en ce qui nous concerne. Dans Psaume 119, verset 40, je m'y rapporte pas, Psaume 119, verset 40, nous lisons, Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Un souhait qu'il exprimait parce qu'il le désirait profondément. Mais bien entendu, il est facile de se laisser distraire. Le but de Satan, c'est justement de nous détourner pour que nous passions d'une façon ou d'une autre à côté de la vie éternelle. Les distractions sont multiples, en fonction bien sûr, différentes distractions en fonction de notre propre caractère. Sommes-nous disposés à nous priver pour nous rapprocher de Dieu, pour être concernés par sa justice? Bien entendu, les épreuves peuvent nous décourager, et Satan, à ce moment-là, en profite. En profite pour nous tirer vers le bas, pour que nous renoncions, justement, à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Il faut bien se garder en tête le fait que les épreuves sont faites pour nous fortifier, et pas pour que nous renoncions à rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu chapitre 5, nous étions dans Matthieu. Matthieu chapitre 5 et le verset 20. Matthieu chapitre 5 et le verset 20. C'est le Christ lui-même qui parle. Car, je vous le dis, si votre justice, donc nous sommes toujours avec le sujet de la justice, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il faut aller plus loin que la justice des pharisiens et des scribes. Dieu veut que nous allions plus loin que la lettre de la loi, que nous observons l'esprit de la loi, l'intention de la loi. À partir du verset 21, le Christ donne des exemples où il est question justement d'observer l'esprit de la loi, d'aller plus loin qu'uniquement la lettre de la loi. Il y a beaucoup d'exemples qui nous sont donnés, beaucoup d'enseignements de la part du Christ, comme quoi il faut aller plus loin, et il cite un certain nombre de domaines. En fonction de notre caractère, certaines de ces choses peuvent être très difficiles. Je ne vais pas détailler chaque exemple, mais j'ai voulu prendre un exemple qui est peut-être le plus difficile de tout et qui se trouve dans Matthieu 5, verset 43. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. La justice de Dieu. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est contre nature, mais le Christ l'a fait. Vous vous rappelez quand ils sont venus pour arrêter le Christ, que Pierre a emporté l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, et le Christ a touché l'oreille de cet homme qui est venu l'arrêter, et il l'a guéri. Sur la croix, or qui souffrait d'une façon qu'on ne peut pas imaginer, le Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y avait aucune haine, aucune animosité et aucun rancœur de la part du Christ. Revenons à Matthieu chapitre 5, verset 46. Matthieu chapitre 5, verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes. Ça, c'est rapporter les êtres humains. Ça va de soi. Verset 47. Mais si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est notre but. Et vous rappelez ce qui est marqué dans Hébreux chapitre 6. Tendons à ce qui est parfait. On va vers ce but-là. L'amour de Dieu, c'est de donner sans arrière-pensée. Et revenons maintenant à Matthieu chapitre 5 et le verset 45 que nous n'avons pas lu. Matthieu chapitre 5, verset 45. Donc, il est question de prier pour ceux qui nous maltraitent, qui nous persécutent, ceux qui nous haïssent. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dans Luc, dans le récit parallèle, c'est marqué, vous serez fils du Très-Haut. Dieu veut que nous puissions développer son caractère, donc le caractère de Dieu. La justice de Dieu, d'agir comme le Christ a agi. Quand il s'agit de chercher la justice de Dieu, l'apôtre Paul nous donne une information complémentaire. Information que nous trouvons dans Philippiens chapitre 3 et le verset 4. Philippiens chapitre 3 et le verset 4. Paul qui avait, à l'époque, avant sa conversion, qui avait beaucoup de caractère sur un plan humain, bien entendu, n'était pas converti. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Verset 6. Quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, il parle de la justice et la justice de la loi. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Paul parle de la réalité de la situation, qui il était, comment il se comportait. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Sa justice, ça. La justice qu'il avait en tant qu'être humain. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, mais je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Ensuite, le verset 9. Non avec ma justice, c'est ce qu'il avait décrit auparavant, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, parce qu'il observait la loi, tout au moins à la lettre. Elle est trouvée en lui, verset 9, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Voilà cette information complémentaire. Il faut avoir une relation avec Dieu. Dieu veut voir sa justice en nous. Et il faut rechercher la justice de Dieu pour que ce soit en nous. Et que ça passe, bien sûr, par l'humilité, sachant pertinemment que nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Il faut de l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions justement progresser, avancer et pratiquer non pas notre justice, mais la justice de Dieu. Nous n'avons pas de justice de par nous-mêmes. Il faut que Dieu vit sa vie en nous. il faut que la justice de Dieu nous soit imputée. Il faut que nous soyons justifiés. Il faut l'aide de Dieu pour pouvoir obéir à Dieu comme Dieu le désire. Et le Christ, bien sûr, intercède pour nous. Nous sommes familiers avec Ésaïe 64 et le verset 5. Ésaïe 64 et le verset 5. Je pense qu'il est intéressant, quand nous lisons cette écriture, de voir le contexte. Le contexte des versets qui le précèdent. Verset 1. Ésaïe 64, verset 1. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui est bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Il parle de cette intervention de Dieu. Comme Dieu est intervenu, il loue Dieu de cette façon-là. Et verset 4, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Il dit des choses à propos de Dieu qui sont vraies. Il parle de la réalité à propos de Dieu. Sa conception de Dieu est bonne, et il parle également de la réalité de la situation dans laquelle il se trouve. Dieu est juste. C'est le point de départ. Ça ne peut pas en être autrement. Verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice, voilà le fameux verset avec lequel nous sommes familiers, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. La réalité donc aussi à propos d'eux-mêmes, la nation. Cela m'impressionne toujours quand je lis à propos de Daniel qui confessait son péché ainsi que le péché de son peuple, mais qui confessait son péché, lui, un des hommes le plus juste mentionné dans l'Ancien Testament. Il nous faut toujours chercher le caractère de Dieu, comment Dieu voit les choses, et pas se fier à nos propres idées, de rechercher ce qui est juste et ce qui est parfait, de rechercher la justice de Dieu. Psaume 119, j'ai fait allusion vers le début du sermon. Dans Psaume 119, il est question de ta justice. Verset 142. Psaume 119, verset 142, lisons ceci. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. Nous pouvons pratiquer avec l'aide de Dieu, la justice de Dieu maintenant. Mais cette justice est une justice éternelle. Ça va continuer pour toute l'éternité, la justice de Dieu. Nous trouvons l'expression « loi de ta justice » à 4 reprises dans le même psaume. On voyait où était le cœur de la personne qui a écrit le psaume. Il exalte Dieu. Ce qui comptait pour lui, c'était la justice de Dieu. Il était aussi reconnaissant. Le mot « délice » se trouve à 8 reprises dans le même psaume, 2 fois plus que dans tous les autres psaumes a réuni les 149 autres psaumes. Mais de nouveau, nous trouvons l'expression « Enseigne-moi à 9 reprises » or qu'ailleurs dans les autres psaumes, c'est seulement mentionné à 4 reprises. Nous voyons la disposition d'esprit de celui qui a écrit le psaume. Il avait faim et soif d'être enseigné, faim et soif d'être enseigné la justice de Dieu. Nous pouvons demander à Dieu comment mieux pratiquer sa justice, parce que dans le royaume, nous allons l'enseigner à d'autres. Mais comment faire face à ce que nous voyons et à ce que nous subissons? Je pense que nous avons tous subi des injustices dans notre vie, et peut-être à l'heure qu'il est, nous subissons des injustices. Mais Dieu ne veut pas que nous nous vengions. Ce n'est pas ça, la justice de Dieu. Il faut laisser la situation dans les mains de Dieu. Le psaume 37 nous donne une ligne de conduite à cet égard. Psaume 37 et le verset 1. Psaume 37, verset 1 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. C'est un exercice de foi, d'avoir confiance en Dieu. Verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le paix pour demeure et la fidélité pour pâture. De garder les yeux sur Dieu. C'est notre but. Le christianisme est une lutte quotidienne. C'est vrai qu'il y a des jours où sont moins zélés, mais il faut garder un minimum, il faut continuer à pratiquer la justice de Dieu et de demander à ce moment-là, de demander son aide pour traverser ces moments qui sont difficiles. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ultérieurement. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances. Dieu entend nos cris. Dieu connaît nos situations qui sont parfois difficiles. Verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il faut continuer si nous voyons peut-être une situation que nous ne comprenons pas. Il faut continuer courageusement à pratiquer les commandements, les préceptes, à travers les tempêtes, les déceptions, les épreuves, le découragement. Il faut persévérer. Verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur. C'est humain, mais ce genre de réaction va nous handicaper, va nous nuire. Verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, c'est la troisième fois dans ce psaume que nous trouvons l'expression « ne t'irrite pas ». Nous le trouvons dans le verset 1, nous venons de le voir dans le verset 7, et voilà une troisième fois, verset 8, « ne t'irrite pas, ce serait mal faire, et nous voulons bien faire, nous voulons pratiquer la justice de Dieu, comme le Christ a fait. » Quand il était sur cette terre, malgré toutes les persécutions qu'il a subies. Verset 9. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Voilà la réalité. Il y a un avenir pour les justes. Il y a une justice, et il y a une justice pour tout le monde. Verset 27. Les justes comme les méchants. Verset 27. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Et puis le verset 29, pour terminer. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. À jamais. Il y a une justice pour tout le monde. Une justice universelle à l'avenir qui sera pratiquée par tout le monde. Et ceci pour toute l'éternité.